Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans une nouvelle enquête criminelle. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Sachez que nous sommes en train de préparer pour vous des t-shirts de notre collection exclusive Le Coin du Crime que tous nos sponsors VIP recevront gratuitement chez eux avant la fin du mois de mars. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dague, Joël LVT et une nouvelle venue Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. Et on commence. Quand les liaisons deviennent fatales, quand les romances basculent en tragédie et quand les aventures amoureuses s'enveloppent de mystères, les existences virent au cauchemar et les âmes tourmentées ne retrouvent plus de répit. Dans cette intrigue bourrifante, le protagoniste s'appelle Jean-Claude Doulieri. C'est un trentenaire, grand et brun, avec une balafre sur l'arcade sourcilière qui lui donne un côté bad boy. Il est sympathique, serviable, sociable et très attachant. D'ailleurs, il a beaucoup de succès avec les femmes. Cependant, ses amourettes finissent souvent très mal, telle une malédiction qui rôde autour de lui et l'accompagne partout où il va. Est-ce le caprice du destin ? S'agit-il de coïncidences étranges ou de choix peu innocents du jeune homme ? Préparez-vous à explorer les facettes de la vie énigmatique de Doulieri et à découvrir les péripéties de son histoire rocambolesque, pleine de sombres secrets et de relations toxiques à conséquences désastreuses. En automne 2000, à une dizaine de kilomètres de Marseille, dans la commune d'Allo, un village plein de charme perché en haut d'une colline dans le département des Bouches-du-Rhône, Jean-Claude Doulieri, un jeune Marseillais au front cabossé à cause d'un accident de moto, rencontre une femme éblouissante, aux cheveux de feu et au sourire radieux. Dans le quartier Château-Gombert à Marseille, Doulieri a la réputation d'un grand fêtard, mais cette fois, il a trouvé l'amour et a envie d'entamer une relation sérieuse avec la belle rousse. Celle-ci s'appelle Dominique Ortiz. Elle a 30 ans. Elle vit encore dans le ranch familial de son père, Manuel Ortiz, vu qu'elle l'aide dans la gestion de son centre équestre. D'ailleurs, Domi et son père partagent tous les deux la passion des chevaux. Cette union, qui semble combler Jean-Claude, déplaît à son omnipotente mère, Georgette Roux. Dominique la craint énormément. C'est une vraie matrone autoritaire, violente et colérique. Cette femme, au fort caractère, a élevé seule ses 5 enfants. Le sang chaud, le verbe haut et le langage grossier, tout le monde connaît son tempérament de feu et ses insultes qu'elle balance à tout va. Les rumeurs disent qu'elle aurait empoisonné son premier mari, Charles Doulieri, le père de Jean-Claude et le boulanger du village. Le 12 janvier 1981, cet homme robuste et travailleur meurt brutalement dans son lit à l'âge de 39 ans. Georgette est suspectée, mais, heureusement pour elle, l'autopsie conclut à une hémorragie interne. Par conséquent, elle bénéficie d'un non-lieu. Son second compagnon, Jacques, n'aurait pas non plus échappé à son martyre. Les bruits courent qu'elle lui aurait planté impunément une paire de ciseaux dans son ventre et qu'il l'aurait échappé belle. C'est une sacrée bonne femme, cette Georgette. Jean-Claude, âgé alors de 11 ans, a profondément été marqué par la mort de son père et, après ce drame qui a frappé sa famille, il s'est beaucoup rapproché de sa mère. Au-delà des liens standards entre mère et fils, Georgette et son aîné ont noué une relation très fusionnelle, voire maladive. Son fiston est devenu l'homme de la famille, celui qui subvient à tous ses besoins et s'occupe de l'éducation de ses frères et de sa petite sœur. Alors, À chaque fois qu'il s'engage avec une fille et qu'il envisage de refaire sa vie loin du carcan familial, Georgette sort ses griffes et se montre très désagréable avec sa compagne. D'ailleurs, l'ex-petite amie de Jean-Claude, une certaine Virginie, a rompu avec lui de crainte que Georgette lui ôte la vie. Cette dernière a été très directe quand elle a proféré des menaces de mort à son égard. De même avec Dominique, elle reproduit le même scénario. Harcèlement verbal, hostilité et intimidation, à tel point qu'elle en est effrayée. En revanche, elle ne compte pas du tout se séparer de son petit ami. Elle est éperdument amoureuse de lui, d'autant plus qu'elle porte maintenant son enfant. Toutefois, elle ne sait pas comment sa belle-mère réagirait si elle venait à apprendre la nouvelle. Le samedi 24 mars 2001, Domi se rend à Marseille pour passer la nuit avec son compagnon. Avant de partir, elle prépare le menu et fait les courses pour le traditionnel barbecue du dimanche. Amis, voisins et famille se réunissent demain à la ferme pour leur fête mensuelle. Le dimanche 25 mars, à midi, tout le monde est au rendez-vous sauf Dominique. On essaie de la joindre au téléphone sans succès. On appelle alors son petit ami, mais celui-ci ne répond pas non plus. Pris d'inquiétude, Manuel Ortiz rappelle encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive à avoir Jean-Claude au bout du fil. Quand il décroche enfin, il lui demande. « Dis Jean-Claude, où est Domi? On l'attend depuis ce matin. Il est 16h et elle n'est toujours pas arrivée. »
« Je ne sais pas. Je l'ai déposée au métro La Rose à 13h et depuis, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un tour en ville et qu'ensuite elle irait vous rejoindre. »
C'est étrange. Ce n'est pas dans ses habitudes de tarder comme ça sans m'avertir. La nuit tombe et Dominique ne rentre pas. Le lendemain, Manuel Ortiz parcourt tout le répertoire de contacts de sa fille. Il appelle un par un ses amis, ses connaissances, mais personne ne sait où elle est. Il contacte également les hôpitaux de Marseille, mais sans résultat. Angoissé, il se rend à la gendarmerie. Au poste, le brigadier lui balance, indifférent.
« Monsieur, votre fille a 30 ans, donc elle est majeure. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut sans vous rendre de compte. Si elle veut disparaître, elle n'a pas à tenir informé qui que ce soit. Je suis désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. »
Le pauvre homme sort du commissariat le cœur brisé. Cela fait 3 jours qu'il cherche désespérément sa fille qui a disparu mystérieusement. Mais personne ne veut l'aider. Pris dans la tourmente, il fait le tour des copines de Dominique, dans l'espoir de retrouver sa trace. Qui sait, peut-être que l'une d'elles lui indiquera son chemin. En discutant avec Liliane Lallemand, une amie de Domi, Manuel lui raconte que son petit ami l'a déposée au métro de La Rose. Celle-ci s'étonne. La Rose? Un dimanche? Le quartier est désert ce jour-là. Elle n'avait rien y à faire, et à ce que je sache, Domi a horreur de la ville. D'ailleurs, elle était à pied, très loin du ranch, au moment où vous l'attendiez pour le déjeuner. Cette histoire ne tient pas la route. Ce type cache quelque chose.
Je me dis la même chose, acquiesce Manuel. D'ailleurs, quand je lui ai parlé au téléphone, il n'avait pas l'air de s'inquiéter. Et maintenant, il fait tout pour m'éviter.
Pire encore, ajoute Liliane. Il y a des gens qui l'ont vu avec une autre femme. C'est comme si Domi n'avait jamais existé pour lui. Comme si elle ne portait pas son enfant. Liliane et Manuel décident de lui tendre un piège. La copine l'appelle pour le faire venir chez elle et le père se cache à l'étage pour écouter leur conversation. Avec un ton moqueur, Doulieri lui signifie que le sort de son ex-compagne ne le concerne pas. Il a tourné cette page de sa vie et ne veut plus en parler. Sa désinvolture consterne le vieil homme à tel point qu'il descend les marches à pas de géant. Il surgit brusquement devant lui, puis s'écrie. « Écoute Jean-Claude, j'ai entendu ce que tu as dit. Maintenant, tu vas aller avec moi au commissariat de gré ou de force. Sinon, tu le regretteras. »
« Dans tes rêves, Manuel. »
Irrité, les deux hommes s'empoignent. Au bout de ses nerfs, Manuel dégaine un revolver et le pointe vers Jean-Claude. Effrayé, ce dernier sort en courant, monte dans sa voiture et va voir les autorités. Ce n'est pas pour Dominique qu'il s'y rend, c'est pour porter plainte contre son beau-père. Le lendemain, à la première heure, les gendarmes déboulent au ranch. Ils perquisitionnent toute la propriété et entament la fouille. Avant qu'ils ne s'expliquent, Manuel Ortiz, qui a deviné le motif de leur visite, sort un calibre et le tend à un brigadier. C'est le pistolet avec lequel il a braqué son beau-fils. Surprise, surprise, l'arme est en plastique. Ce n'est qu'un jouet, le lieutenant s'emporte et hurle. « Monsieur Ortiz, vous nous prenez pour qui ?»«
Demandez à Liliane, c'est cette arme que j'ai sortie hier, je voulais juste lui faire peur pour qu'il me dise ce qu'il a fait de ma fille.
Mettez-vous à ma place, ça fait 3 semaines que je suis sans nouvelles d'elle. Juste ciel, elle est enceinte.
Moi je suis angoissé, le père de l'enfant qui devrait se soucier
encore plus que moi, refuse de la chercher. Je suis sûr qu'il a quelque chose à voir avec sa disparition. Qu'est-ce que je fais? Je reste les bras croisés? Convaincus, les gendarmes acceptent enfin de lancer une recherche dans l'intérêt des familles. Entendu, Jean-Claude répète les mêmes allégations qu'il a déclarées au père et livre le même emploi du temps. Cependant, sa version des faits ne concorde aucunement avec les dépositions des témoins. Contrairement à ce que prétend Doulieri, le veilleur de nuit et le réceptionniste de l'hôtel où le couple a passé la nuit du 24 au 25 mars attestent que les fiancés sont arrivés et ont quitté les lieux séparément. Dominique est entré à l'hôtel à 19h. En revanche, son compagnon l'a rejoint à 1h du matin et il est resté 2h, puis il est reparti sans elle. Elle a quitté les lieux à 5h du matin. Au fil de l'enquête, les incohérences dans le récit du compagnon se multiplient. Lors de l'examen du relevé de son téléphone mobile, il s'est avéré que sa mère et lui se sont appelés plus de 60 fois tout au long de la journée du 25 mars. S'ils avaient été ensemble à la fête d'anniversaire, pourquoi se seraient-ils téléphonés autant de fois? D'ailleurs, quand les gendarmes perquisitionnent le domicile de la matrone et saisissent les appareils photos, ils y trouvent des photos de deux anniversaires différents, à deux dates différentes, pour le même garçon de 12 ans. Celui qui date du 25 mars a donc été monté de toutes pièces. Sur place, on procède à l'arrestation de Jean-Claude Doulieri et de Georgette Roux, qui a fabriqué à son fils un faux alibi pour le tirer d'affaire. On les met tous les deux en garde à vue, puis on les interroge, chacun de son côté. D'une part, Roux ne répond pas aux questions et se mure dans le silence. D'autre part, Jean-Claude reprend les mêmes phrases « je ne sais pas » ou « je ne me souviens plus ». On tente alors de le pousser dans ses retranchements, mais en vain. Dès qu'il se sent bloqué, il prend sa tête dans ses mains et regarde ses chaussures pendant de longues minutes. Il reste silencieux, 10 minutes, 15 minutes. Les gendarmes s'amusent à le chronométrer. Il atteint 24 minutes sans rien dire. Les 48 heures de la garde à vue s'écoulent. Les suspects sont libérés, mais les autorités les gardent à l'œil et poursuivent leur enquête. Mis à part l'affaire de son ex-mari dont elle a été acquittée, Georgette Roux n'a pas d'antécédent avec la justice. De même, Jean-Claude Doulieri n'a pas de casier judiciaire. Toutefois, au cours des recherches, les officiers tombent sur un procès-verbal datant du 14 septembre 1999, dans lequel il y a un constat d'un cas de conflit familial. En effet, lors d'une altercation avec sa petite sœur, Jean-Claude est allé jusqu'à lui planter un couteau dans la cuisse gauche. La jeune fille n'a tout de même pas porté plainte contre lui. Certes, ce n'est qu'une querelle de fratrie, mais cela en dit long sur le tempérament colérique de cet homme mystérieux. Un an après la disparition de Dominique Ortiz, le 27 février 2002, Roux et Doulieri sont interpellés à nouveau et placés en garde à vue pour la deuxième fois. Leurs auditions se succèdent, mais sans aucun progrès. Malgré la pression exercée par les enquêteurs, les deux suspects ne fléchissent pas. Georgette, elle ne comprend pas pourquoi on la traîne à chaque fois dans cette histoire avec laquelle elle n'a aucun rapport. Mais enfin, Oulma l'a fêté deux fois l'anniversaire de son garçonnet pour lui faire plaisir. Pour sa part, Jean-Claude, lui, ne croit pas qu'on l'accuse d'avoir fait disparaître une femme à qui il éprouvait le plus grand amour. Comment peut-on aimer autant quelqu'un et lui porter préjudice? Le lendemain, sans aveu ni état d'avancement dans l'affaire, les deux prévenus sont mis en examen pour enlèvement et séquestration puis envoyés en instruction. 4 mois plus tard, la mère et le fils sont relâchés par manque de preuves, mais ils restent sous contrôle judiciaire en attendant que de nouveaux éléments apparaissent dans le dossier. Libéré de prison, Jean-Claude reprend le cours de sa vie normale, là où elle s'est arrêtée, comme si de rien n'était. Le Marseillais retourne chez son ancien employeur, Robert Faure, qui accepte de le réengager sans la moindre hésitation. Ce dernier a connu Doulieri dans le passé comme étant un jeune homme honnête, assidu, travailleur et convivial. Alors, quand celui-ci lui a expliqué qu'il a été accusé et incarcéré à tort, il l'a cru et lui a fait confiance. D'ailleurs, Jean-Claude fait presque partie de la famille Faure. Il assiste à toutes les réunions familiales, mariages, baptêmes, fêtes. Comme un membre de la famille, il répond toujours présent et partage avec eux les heureuses occasions. En guise d'indemnisation pour son accident de moto, le jeune maçon touche une somme de 60 000 euros. Grâce à cet argent, il achète un appartement, se procure une voiture Porsche d'occasion et mène grand train. De discothèque en boîte de nuit, il s'éclate, fait la fête et séduit toutes les femmes qu'il croise à tel point qu'on le surnomme « étiquette ». Il s'amuse à accumuler les conquêtes, comme s'il collectionnait des trophées. On dirait qu'il veut battre un record. Il a même conçu un classeur dans lequel il rassemble les photos et les renseignements des filles qu'il fréquente. À ses copains, il en parle avec fierté, mais il n'évoque jamais son ex-fiancée, Dominique. il l'a complètement effacée de sa vie. En revanche, Manuel Ortiz n'a pas oublié son unique fille, ne serait-ce qu'un instant. Cela fait 4 ans que le père accablé n'a pas vu sa Domi. Pourtant, il a tout fait pour la retrouver. Ses chevaux, son patrimoine équestre, il s'en est passé. Il a tout vendu pour financer les recherches. Il a promis une somme de 150 000 euros à celui qui lui apporterait un élément nouveau qui le mettrait sur sa trace. Mais en vain. À la gare du métro La Rose et sur tous les murs de la ville de Marseille, il a collé des affiches contenant le montant de la récompense et la photo de la disparue. Mais sans résultat. Qu'est-il arrivé à Domi ? Depuis le 25 mars 2001, la question hante sa famille et ses amis, mais personne n'a de réponse. Du côté de la gendarmerie, l'enquête est au point mort et le dossier finit par se mêler aux affaires non résolues. Plus le temps passe, plus l'espoir de la retrouver vivante s'estompe. Si les parcelles de vérité viennent à être découvertes, ils apaiseraient peut-être un seul homme, Manuel Ortiz, mais ne le guériront jamais de la souffrance qu'il a vécue. Durant des années, Jean-Claude Doulieri se fond dans la nature et ne fait plus parler de lui. En été 2004, il quitte la ville de Marseille et trouve refuge à Sanary-sur-Mer, chez le fils de son patron et son ami d'enfance, Jean-Pierre Faure. Ce dernier est marié à une certaine Béatrice Fustieri, une belle femme aux cheveux châtains longs et à la silhouette fine, gracieusement dessinée. De cette union est née une fille du nom d'Angélique. Depuis son arrivée chez eux, Doulieri fait en sorte d'être aimable et attentionné envers Angélique, mais aussi envers la femme de son ami. Il ne rentre jamais les mains vides et offre des cadeaux à tout le monde. Le jeune homme se rapproche beaucoup du couple, qui se met à lui raconter ses secrets les plus intimes. Il s'immisce progressivement entre les deux époux et devient leur confident attitré. Quand la jeune épouse est contrariée, il lui prête toute son attention et la console tendrement. De même, lorsque Jean-Pierre a envie de discuter de ses problèmes conjugaux, il l'écoute attentivement et le conseille sagement. Un jour, Angélique, qui passe la nuit chez ses parents, se réveille en sursaut en pleine scène de ménage. Elle tend l'oreille pour comprendre ce qui se passe. Elle découvre que ses parents et leur ami, tous les 3 sous, se disputent bruyamment. En présence de sa mère, elle entend Doulieri qui blâme son père en lui disant « Avoue Jean-Pierre, avoue que tu ne ratais aucune occasion même si tu t'étais récemment marié. J'ai assisté à quelques parties que tu organisais au début de votre union. Tu prenais du plaisir et assouvissais tes désirs sexuels. Combien de fois l'as-tu trompé ?»« Je sais que je n'ai pas été fidèle, » répond le mari enivré. « Oui, j'ai eu beaucoup d'aventures, j'avoue, mais je ne me rappelle pas le nombre. Je ne suis pas comme toi. Je ne comptais pas mes conquêtes. »« Tu te rends compte de ce qu'il t'a fait ?» rétorque Jean-Claude en s'adressant à Béatrice. « Et c'est maintenant qu'il le dit après tant d'années de mariage. Pour tes infos, il a même couché avec ma sœur. »« Oui, en effet, » acquiesce Jean-Pierre. « On a même fait des partous ensemble. » Pendant un long moment, Béatrice reste silencieuse. Elle écoute sans répliquer. Soudain, elle se retourne vers Jean-Claude et lui lance. « Tu sais quoi ? C'est normal qu'il aille coucher à droite et à gauche. Il cherche à tester sa virilité parce qu'il sait qu'il est nul. De toute façon, c'est un bon à rien au lit. » Froissé, l'époux se lève brusquement et se jette sur sa femme pour la frapper. Sur le champ, Doulieri s'y oppose et s'écrie. « Tu ne la touches pas ! Viens, on va sortir dans le jardin et quand tu te calmeras, on retournera à l'intérieur. » La jeune fille se remet au lit, le cœur lourd, et pense à ses parents dont le mariage se brise devant ses yeux. Depuis l'arrivée de cet inconnu chez eux, tout va de travers. D'ailleurs, Jean-Pierre Faure ignore que, depuis quelque temps, celui qu'il considère comme son meilleur ami, celui qui vit sous son toit, est devenu l'amant de son épouse. Pour les parents de Béatrice, ce n'est plus un secret et son mari le saura tôt ou tard. Cela l'importe peu. Il ne reste plus qu'Angélique avec laquelle elle devra en discuter. Les deux amants se rendent alors chez la jeune fille pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. Avec un sourire joyeux, telle une enfant comblée, sa mère déclare « Écoute ma chérie, Jean-Claude et moi nous sommes rapprochés ces derniers mois. Ça fait un bout de temps que je voulais t'en parler, mais il n'y a pas eu d'occasion. Je me suis jamais sentie aussi heureuse et amoureuse. Dis-moi ma belle, est-ce que ça te dérange si je refais ma vie avec lui ?» « Tant que tu es heureuse, maman, je ne trouve pas d'inconvénient. Tout ce qui m'importe, c'est ton bonheur. » Les jours suivants, et sans prévenir, Jean-Pierre Faure disparaît soudainement. Sans nouvelles de lui, Angélique interroge Béatrice au téléphone. Embarrassée, celle-ci lui répond qu'il est parti en virée avec des amis. Angélique n'y croit pas un mot, car depuis son accident de travail, son père ne sort pratiquement plus. Confuse, elle insiste auprès de sa mère pour connaître la vérité. À chaque fois, elle lui livre une version différente de la précédente, s'embrouille dans ses explications et finit par s'emporter. « Ne cherche pas à savoir, je ne peux rien te dire, il est parti et il ne reviendra plus. Un point, c'est tout. » Le 18 mars 2005, Angélique se rend chez ses parents. Arrivée sur place, son cœur se serre et elle a un mauvais pressentiment. Bizarrement, tous les volets sont fermés. La maison est d'une propreté inhabituelle et la chaise longue de son père n'est plus à sa place. Elle se met à le chercher partout, même dans les endroits les plus improbables, dans les chambres, sous les lits, dans les placards, dans les tiroirs, dans les sacs poubelles, mais elle ne trouve aucune trace. Elle sent qu'il lui est arrivé malheur et que sa mère en sait quelque chose. Elle a aussi remarqué que Jean-Claude Doulieri a officiellement pris la place de son père. Il s'est installé dans sa chambre, il dort dans son lit, il porte même ses vêtements. Devant l'acharnement de sa fille, dans un moment de faiblesse, Béatrice, complètement bourrée, lâche sans réfléchir. « Ton père, il est mort. Il était sacrément lourd à porter, puis ça n'a pas été facile à nettoyer. »«
Qu'est-ce que tu racontes, maman ? » s'écrie-t-elle. « Vous l'avez tué ? Vous vous êtes débarrassé de lui ? » ?»«
Et de ses affaires aussi, » lance sa mère.
Abasourdie, la jeune fille n'en croit pas ses oreilles. Elle bombarde sa mère de questions, mais à un moment donné, celle-ci se referme brusquement, regrettant déjà les confessions qu'elle vient de faire. Or, maintenant qu'elle s'est assurée que Béatrice et son nouveau compagnon ont fait disparaître son père, Angélique n'est pas prête de lâcher l'affaire. Elle va immédiatement voir son grand-père Robert, qui lui recommande de se rendre à la gendarmerie pour porter plainte. Le 31 mars 2005, Angélique Faure se dirige vers la brigade de la gendarmerie de Marseille. Sans préambule, elle leur déclare que Jean-Claude Doulieri a tué son père. Les agents, qui connaissent déjà cet homme suspecté dans l'affaire Ortiz, ne sont pas surpris. Toutefois, ils interrogent la jeune femme sur les raisons qui ont pu la pousser à l'accuser directement de ce crime. « Au tout début, ma mère a prétendu que mon père avait quitté le domicile familial. Moi, je ne l'ai pas cru. Je l'ai harcelé jusqu'à ce qu'elle finisse par m'avouer que mon père est mort et qu'ils se sont débarrassés de son corps. Elle a aussi évoqué un véhicule qu'ils ont brûlé et des objets qu'ils ont jetés. C'est tout ce que j'ai pu en tirer d'elle. » C'est ainsi que les gendarmes retombent sur le mystérieux Doulieri. Il se peut que cette fois soit la bonne et qu'enfin ils pourront l'arrêter et l'empêcher de nuire. Une information est ouverte sur le champ pour disparition inquiétante et une nouvelle enquête démarre à la gendarmerie de Marseille. On commence alors par surveiller discrètement le domicile d'Effort, où réside également l'amant assassin. Parallèlement, on place le couple sur écoute téléphonique et on enregistre toutes les conversations. Par ailleurs, la voiture brûlée que la fille du disparu a évoquée est activement recherchée. La liste de tous les véhicules incendiés durant le mois de mars est passée au crible. Et bingo ! À Sanary-sur-Mer, on retrouve une voiture entièrement calcinée enregistrée au nom de Jean-Pierre Faure. Auditionné, son ancien propriétaire affirme la lui avoir vendue 15 jours plus tôt. Lorsque les gendarmes lui montrent la photo de Jean-Pierre, il ne le reconnaît pas, mais quand il lui présente celle de Doulieri, il l'identifie immédiatement. C'est cet homme avec qui il a traité, non pas l'autre, et il en est certain. Doulieri a donc usurpé l'identité de Faure pour se procurer cette voiture. Les techniciens d'identification criminelle la passent au peigne fin et en tirent profit. Dans l'habitacle calciné, ils réussissent à extraire une éponge souillée de sang et après analyse, il s'avère que c'est celui de Jean-Pierre Faure. L'affaire bascule aussitôt. À présent, il n'est plus question de disparition. Il est maintenant question d'actes criminels avec circonstances aggravantes. 3 semaines plus tard, on procède à l'interpellation des deux suspects. Durant les premières 24 heures de sa garde à vue, Béatrice soutient que son mari a acheté une nouvelle voiture et a décidé de quitter le foyer une fois pour toutes lorsqu'elle a demandé le divorce. Toutefois, le lendemain, elle confie aux gendarmes. En effet, le 15 mars dernier, il y a eu une altercation entre Jean-Claude et Jean-Pierre. Je n'y ai pas assisté. Moi, j'étais sorti et quand je suis rentré chez moi, ni l'un ni l'autre n'étaient là. Mais il y avait du sang partout. Depuis ce jour, je n'ai plus revu Jean-Pierre. C'est le sang de votre mari, interroge le brigadier. L'un ou l'autre était blessé, répond-elle. Lequel d'entre eux ? Je ne sais pas. Simultanément, dans la salle d'à côté, Doulieri est interrogé. Comme à l'accoutumée, il n'en sait rien de rien. Il se mure dans le silence et joue au jeu de la montre.
À l'issue de leur garde à vue, Béatrice Faure et Jean-Claude Doulieri sont mis en examen pour assassinat et sont écroués en prison. L'instruction dure plus de 2 ans. Pour sa part, le jeune Marseillais refuse de livrer la vérité à la justice. Lors de ses innombrables auditions, il nie toutes les accusations, puis se renferme dans le mutisme. Ses réponses rares et imprécises sont toujours dénuées de sens et ne font pas avancer l'enquête. Pour ce qui est de la Sanarienne, elle n'a cessé de multiplier les versions plus ou moins farfelues quant à la disparition de son mari. Elle joue le rôle de la victime, incarnant brillamment le personnage de la maîtresse opprimée, apeurée et menée par le bout du nez. Et Dominique Ortiz, en sait-elle quelque chose ? Elle aurait entendu quelques bribes de confidences à ce sujet, mais elle ne peut tout de même rien divulguer. Bien que la juge tente de la pousser dans ses retranchements, Frustieri ne lâche rien. Avec beaucoup de subtilité, elle fait croire au magistrat qu'elle a été manipulée depuis le début, qu'elle a été contrainte de s'allier à Doulieri pour garder sa vie sauve, et ses caprices finissent par payer. Après 14 mois de détention préventive, la chambre d'instruction décide que Béatrice comparaîtra libre. Le mercredi 14 octobre 2007 s'ouvre le procès de l'affaire Faure devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Draguignan. Les amants diaboliques s'expliqueront-ils ? À leur entrée en salle, ils ne se regardent pas. Devant la cour, Doulieri, avec sa chemise blanche et son regard de chien battu, ne démord pas, toujours fidèle à sa position. Il le confirme en disant « Je plaide innocent ». Face au juge, au premier rang, Béatrice Frustieri est assise près de son avocate, Virginie Pain, vêtue d'un pantalon gris et d'une veste en cuir noir. Elle est soigneusement maquillée et n'a pas l'apparence d'une veuve éplorée. Pourtant, elle ne cesse de larmoyer depuis son arrivée. Appelée à la barre, elle déclare au président Jean-Luc Tournier « Je souhaite dire la vérité pour la mémoire de mon mari, pour ses parents et pour ma fille, Angélique. » Un silence pesant règne dans la pièce. Va-t-elle reconnaître d'avoir tué son époux ? Tout le monde est saisi et Béatrice, entre 2 sanglots, poursuit. « Oui, je sais que mon mari est mort. Je sais où est son corps et je peux vous y conduire. Je connais l'endroit où son cadavre a été jeté. » Jusqu'alors silencieux, Doulieri s'emporte et s'écrie « Puisqu'elle sait où il est, qu'elle nous y mène !» C'est un coup de théâtre inattendu. La stupeur frappe aux assises du Var. Tout l'auditoire est suffoqué. Les magistrats et les jurés sont consternés. Tournier suspend immédiatement l'audience et demande à s'entretenir en huis clos avec la Sanarienne et son avocate, une première dans un tribunal français. S'il s'avère que ce qu'elle prétend est vrai, cela fait basculer toute l'affaire. Dans son bureau, le président s'empresse de la questionner. « Madame Faure, êtes-vous sûre de ce que vous avancez ? Parce que cela change tout. » « Oui, monsieur le président. J'ai accompagné Jean-Claude au sommet de la falaise lorsqu'il l'a jeté. Il y aura même 2 corps. Si on retrouve Jean-Pierre, on retrouvera aussi Dominique Ortiz. »« 2 corps, vous dites ?» demande Jean-Luc Tournier, intrigué. « Oui, monsieur. Et je pense pouvoir vous y emmener. » « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt ?»« Parce que je craignais de subir le même sort. » Est-ce un tour de manège que Béatrice Faure fait de manière théâtrale pour se tirer d'affaire ? D'ailleurs, la jeune femme ne manque pas de négocier un accord. Dans ce pacte odieux, elle tente d'échanger les 2 cadavres contre sa liberté. Le juge Tournier en est déconcerté et ne sait plus quoi penser. Il a des doutes quant à la véracité des déclarations de Frustieri, mais il se doit de les vérifier au profit de l'affaire. L'audience est alors reportée et le dossier est renvoyé en instruction pour supplément d'information. Avant de prendre la route vers cette scène de crime potentielle, on interroge la suspecte qui décrit méticuleusement les lieux. Sur la route des Crêtes près de Cassis, elle a vu une chaîne anti-feu dans un tronçon de route en pas de doigt, mais elle ne sait plus par quelle direction il faudrait passer. Toutefois, elle se rappelle que le trajet mène à une table d'orientation en pierre. Les autorités répertorient alors toutes les tables d'orientation et réussissent à localiser une qui se trouve du côté droit d'une double route en haut de la falaise du Bec de l'Aigle. Ainsi, on décide de s'y rendre au plus vite. Dans le véhicule de son avocate, Béatrice guide un long convoi jusqu'à la route des Crêtes. Jean-Claude Doulieri, les gendarmes, les parties civiles, les avocats, les jurés et le président de la cour d'assises et délégataire de la commission rogatoire lui font cortège. Au total, 50 voitures se déplacent au gré des souvenirs de Frustieri. Après 2 heures de recherche, le convoi s'arrête, croyant enfin être au bon endroit. Lorsqu'elle descend de la voiture, elle déclare brusquement « Non, ce n'est pas ici.
La table n'est pas comme ça et on n'était pas face à la mer. Comment vous pouvez en être si sûr ? Demande un gendarme. À ce que je sache, il faisait nuit noire quand vous étiez venu. Même si c'était la nuit, rétorque-t-elle, je me rappelle très bien, on n'avait pas la mer en face de nous, j'en suis certaine. Tout le monde remonte en voiture. On reprend la route à la recherche d'une autre table d'orientation qu'on pense trouver dans une calanque sur le plateau de Carpiagne. Ainsi, on contourne la ville de Cassis. On s'enfonce dans le vallon, mais aucune table d'orientation n'est en perspective. Après 4 heures d'aller et venue sans résultat, les magistrats, les jurés et les avocats commencent à douter. En revanche, les gendarmes s'accrochent et se tournent vers Béatrice. Après une avalanche de questions, elle dit se souvenir d'une structure métallique avec une petite lumière qui clignotait. C'est le relais de télévision du baou de la soupe. On rebrousse alors chemin, en direction du Cap Canaille, entre la Ciotat et Cassis. L'une des plus hautes falaises d'Europe, un endroit sauvage et difficile d'accès surnommé le Triangle des Bermudes, le lieu idéal pour qui voudrait offrir une tombe de fortune à un importun. Au fur et à mesure qu'il s'approche de l'émetteur de télévision, les maigres souvenirs de Béatrice coïncident progressivement avec les lieux. Subitement, la jeune femme se montre très volubile. Elle parle encore et encore, relatant la nuit du drame. Excitée, elle détaille. On a pris le sentier en voiture, et quand le chemin est devenu impraticable, on a continué à pied. Là, j'ai aidé Doulieri à porter le corps. À mi-chemin, je lui ai dit que j'avais les jambes coupées et que je ne pouvais pas poursuivre. C'était la vérité. Je n'en pouvais plus, mais il y avait une autre raison pour laquelle je ne l'ai pas suivi. Je craignais qu'il me fasse disparaître à mon tour, qu'il me fasse chuter pour me faire taire moi aussi. Tout semble correspondre. À droite du relais de la soupe, on tombe sur un chemin barré par une chaîne anti-feu, et à gauche, on trouve une vigie avec une table d'orientation en pierre. Immédiatement, elle reconnaît le lieu et tombe à genoux en pleurant. « C'est ici !» s'écrie-t-elle apeurée. « C'est à cet endroit précis que Jean-Claude l'a balancé. Je me tenais là, prostré, et je le voyais pousser le corps, l'avancer auprès du bord et finir par le faire rouler. Le cadavre. Lorsque celui-ci est tombé en bas de la falaise, j'ai entendu « bloc, bloc !» En hélicoptère, les gendarmes survolent les lieux et remarquent les 2 blocs rocheux dans lesquels le corps a frappé lors de la chute. Une équipe de recherche ratisse le pied de la falaise et très vite, ils y retrouvent un jogging bleu ciel. C'est le vêtement que Jean-Pierre Faure a mis le jour de son meurtre. D'autres habits sont découverts ainsi que des ossements, un crâne et 2 mandibules. Il y a bien 2 corps qui ont été ensevelis à cet endroit pittoresque. Le ratissage permet également de collecter des lambeaux de vêtements et quelques bijoux de femmes. Un élément en particulier saisit l'attention des enquêteurs. Une bague en or, en forme de goutte d'eau, qu'ils ont reconnue sur le champ. C'est celle de Dominique Ortiz. Elle la portait sur plusieurs photos, notamment celle de son avis de recherche. Dans l'immédiat, tous les éléments recueillis lors de l'exploration minutieuse de la zone sont transportés au laboratoire d'expertise pour analyse. 48 heures plus tard, les tests ADN confirment que le crâne retrouvé et l'une des mandibules appartiennent à Jean-Pierre Faure, alors que la seconde mandibule et d'autres ossements sont ceux de Dominique Ortiz. Enfin, le mystère est élucidé et l'énigme des 2 disparitions est résolue. Pour les familles des victimes, c'est une sorte de soulagement après tant d'années d'attente et de souffrance. Interrogée par le président Tournier, Béatrice Faure dévoile les faits survenus le soir du drame. Ainsi, elle confesse. C'était le 15 mars 2005. J'étais chez mes parents dans l'appartement voisin. Soudain, j'ai entendu une dispute très bruyante chez moi. J'ai compris que Doulieri et mon mari se bagarraient. Et pour ne pas inquiéter mon père et ma mère, j'ai monté le son de la télé. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police ? Sur le coup de l'émotion, je n'ai pas pu réagir. Je suis resté figé dans un coin et il ne m'est pas venu à l'esprit d'alerter les autorités. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès que ça s'est calmé, je suis rentré. Quand j'ai ouvert la baie vitrée, j'ai vu Jean-Claude debout, dans l'obscurité, un couteau à la main, et mon mari, étendu sur le dos, dans une mare de sang. Il était mort. Vous avez pu distinguer les lésions ? Non, monsieur le président, je n'ai vu aucune blessure. Je pense qu'il a été poignardé par derrière. Pourquoi Doulieri l'a-t-il tué ? Il vous a expliqué ses raisons ? Je lui ai demandé ce qui s'était passé, pourquoi il en était arrivé là. Mais il n'a rien voulu m'expliquer, il m'a juste dit « moins tu en sauras, mieux ce sera ». Et même à ce stade-là, vous n'avez pas pensé à appeler la gendarmerie. J'étais dans un état de panique indescriptible, mais je lui ai quand même dit que je devais alerter la police. Il a refusé, et m'a clairement signifié qu'il ne me laisserait pas faire.
Comment vous avez sorti le cadavre de la maison ?
Il a d'abord enroulé le corps dans une couverture et il a couvert la tête avec une serviette éponge. Ensuite, il m'a forcé à l'aider à traîner le cadavre jusqu'à la voiture qu'il venait d'acheter.
Et l'arme du crime, le couteau, où est-il ?
Il s'en est débarrassé en cours de route dans la baie de Bandol.
Puis, vous vous êtes dirigé vers le Cap Canaille.
Tout à fait, par la Nationale. On est allé jusqu'à Cassis en passant par la route des Crêtes. C'est là, à l'endroit où je vous ai emmené, que Jean-Claude a jeté la dépouille sous mes yeux. Je le voyais faire, terrorisé. Et je me disais que je serais la suivante parce que j'en savais trop. J'ai vraiment pensé que mon heure était arrivée, que j'allais suivre Jean-Pierre en bas de la falaise. Mais non, contrairement à ce que je croyais, Jean-Claude ne m'a rien fait. Je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il ait brûlé la voiture qui a servi à transporter le corps, puis on est rentrés ensemble.
Qui a nettoyé la maison ?
C'est lui qui a nettoyé toutes les traces de sang et de lutte dans l'appartement. Il a même repeint les murs les jours suivants.
Les propos de Béatrice Faure concordent avec les conclusions du médecin légiste. Dans le rapport d'autopsie, il est noté que M. Faure a été frappé à 3 reprises à l'arrière du crâne par une lame perforante, en l'occurrence un couteau. L'assassin se tenait donc derrière lui et l'a pris par surprise. À la suite des aveux de la veuve, une reconstitution des faits est alors organisée au domicile des Faure, en présence des avocats de défense, de l'avocat général Damien Martinelli, du président de la cour et des 2 protagonistes du crime. Béatrice, toujours libre, parcourt la demeure en décrivant en détail les faits survenus le soir de l'assassinat. La jeune femme scénarise les événements et joue très bien son rôle. Ce n'est pas pour rien qu'elle se montre coopérative. Elle a un objectif à atteindre. Elle cherche délibérément à tirer profit de la situation, à tel point qu'elle profère publiquement « C'est quand même moi qui vous ai permis de retrouver les corps. Je vous ai livré 2 cadavres. Mais enfin, que faut-il de plus à la justice pour vous prouver que je suis de bonne foi ?»
Au cours de son show, Béatrice Frustieri avance une hypothèse sur la cause de la dispute qui a coûté la vie à son défunt conjoint. De son point de vue, Jean-Pierre Faure avait reçu des confidences de son amant sur l'assassinat de Dominique Ortiz et que celui-ci avait l'intention de révéler son secret. C'est pour cela qu'il l'a tué. Doulieri, jusque-là silencieux, est effaré par les talents de comédienne de son ex-maîtresse. Il la regarde longuement, ébranlé et dérouté, avant de s'écrier « C'est une menteuse ! C'est de la folie ce qu'elle raconte, que des sottises ! Ma foi, que des absurdités ! De toute manière, la vérité éclatera, et quand le jour viendra, tout cela se paiera. » Durant toute la procédure, le Marseillais maintient qu'il n'a rien fait. Pour le faire savoir, le 24 mai 2008, il écrit une longue lettre à la juge d'instruction dans laquelle il dénonce les allégations mensongères de Frustieri. Il crie haut et fort son innocence et demande son acquittement, mais la magistrate ne donne pas de suite à sa requête. Le 15 décembre 2008, après 10 mois de supplément d'information, le procès des amants diaboliques reprend à Draguignan. Froid et impassible, Doulieri ne change pas de position, niant toute implication dans l'affaire. Durant l'audience, les bandes d'enregistrement des appels téléphoniques post-assassinat entre les 2 amants sont exposées. Ils débordent d'amour et de passion. Béatrice ne semble pas apeurée comme elle le prétend. Ses paroles ne sont pas celles d'une femme craignant pour sa vie, mais celles d'une complice amoureuse, prête à tout pour son amant. Lorsque le légiste apporte à la cour la boîte crânienne de son mari, Béatrice est la seule personne qui ne détourne pas son regard. Elle la fixe longuement, puis jette un coup d'œil perçant au banc des parties civiles, où se trouve la famille Faure avec un petit sourire démoniaque au coin de la bouche. Son attitude glaçante est remarquée par tout l'auditoire. À ce moment-là, les jurés, l'avocat général Ange Friorito et les magistrats ont eu la certitude que Béatrice n'a pas été manipulée, comme elle veut le faire croire. Elle n'est pas non plus une simple complice passive. Elle est co-autrice du meurtre de son époux. Après délibération, le jury livre son verdict. Les accusés sont déclarés coupables, mais la préméditation n'est pas retenue. Jean-Claude Doulieri est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une mesure de sûreté aux 2/3 de sa peine, réduite à 25 ans en appel. Aussitôt arrêtée, Béatrice Frustieri est reconnue coupable et écrouée pour 20 ans. Au tribunal d'Aix-en-Provence, un second dossier criminel attend l'assassin sans pitié qui a tué la femme qui portait son enfant. Le 3 février 2010, en l'absence de sa mère Georgette Roux, morte quelques années plus tôt, se tient le procès de l'affaire Ortiz. Comme à son habitude, l'accusé n'avoue rien et nie tout en bloc. Reconnu coupable, il écope de 20 ans de prison. En France, les peines ne sont pas cumulables.
Elles sont confondues, seule la peine la plus lourde est retenue. En conséquence, Doulieri est écroué pour 20 ans de prison pour les deux crimes. Selon son ex-maîtresse, la liste de ses victimes est bien plus longue. Pour le maçon de Marseille, les ennuis avec la justice sont peut-être loin d'être terminés. Les gendarmes y croient et fouillent encore dans son passé. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.